ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de vie. Car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Cela, nous, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète.
C'est donc le deuxième dimanche de l'Avent, cette période de préparation à Noël. En pensant à Noël, on peut constater que selon les lieux et les cultures, cette fête est associée à des choses assez différentes. Alors, par exemple, ici en France, pays de l'hémisphère nord, lorsqu'on pense à Noël, on pense à l'hiver. On pense à un paysage enneigé, même si à Paris, c'est assez rare qu'il y ait de la neige à Noël. On pense au Père Noël, qui est plutôt habillé pour l'hiver. On pense à du vin chaud. On pense à peut-être une soirée en famille au coin du feu. Par contre, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, par exemple, Libby pourra nous confirmer que Noël, c'est plutôt associé à la plage. Et là, Libby se demande, qu'est-ce que je fais ici? Peut-être pour ça qu'elle retourne. Noël, c'est associé donc au soleil, au barbecue sur la plage notamment. Alors, j'ai remarqué que quand même le Père Noël reste habillé pour l'hiver, tradition oblige. Mais ce qu'il y a de commun entre les différentes traditions un peu folkloriques autour de Noël, en fait ce qu'il y a de commun dans les célébrations de Noël, partout où Noël est fêté, c'est que Noël est associé à la joie. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que chacun est réellement et effectivement heureux ou joyeux à Noël, mais il y a quand même cette idée bien établie que Noël a vocation d'être associé à la joie. Et on peut se poser la question, pourquoi cette joie? Et en particulier, on peut se la poser lorsqu'on a oublié, consciemment ou non, les racines chrétiennes de Noël. Ce soir, donc, on se penche sur la première lettre de Jean, ces quatre premiers versets, ce prologue de cette petite lettre. Et il faut reconnaître que c'est un texte qu'on n'associe pas très souvent à Noël, mais il nous a semblé approprié de le faire en cette période de l'Avent, parce que ce texte nous parle, à sa manière, de la venue de Jésus dans le monde. Il nous parle de l'intervention du Fils de Dieu dans le monde et de ce que ça implique pour nous tous. Et on constate que ce texte se termine par une déclaration saisissante de joie. Jean, au verset 4, dit qu'il a écrit tout ce qui précède et qu'il va continuer à écrire pour que notre joie, dit-il, soit complète. Donc la joie est vraiment la conclusion de ce prologue. Et ce soir, j'espère que nous pourrons goûter, ne serait-ce qu'un peu, goûter à nouveau à cette joie complète qui vient de l'écoute et de la compréhension du message de Jésus, ou du message à propos de Jésus, ce message que Jean appelle ici la parole de la vie. Et dans ce texte, Jean nous décrit trois aspects de ce message, et ça sera les trois temps de notre réflexion. D'abord un message historique, ensuite un message de vie, et enfin un message d'unité. Un message historique tout d'abord. J'ai parlé tout à l'heure du folklore autour de Noël. Et il faut reconnaître qu'à Noël, on raconte beaucoup d'histoires, et en particulier aux enfants. Et pas seulement l'histoire de Noël elle-même, mais surtout on raconte beaucoup d'histoires inventées, des contes, des légendes. Et alors personnellement, j'ai rien contre les histoires inventées de Noël qui parlent du Père Noël qui descend dans la cheminée, qui place des cadeaux sous le sapin, etc. À condition de préciser quand même aux enfants, pas trop tard dans leur vie, que c'est des histoires inventées, que ce sont des légendes, comme le petit chaperon rouge, comme les trois petits cochons, ou la perspective d'une reprise économique en France. C'est des choses qu'on invente et qui sont autres que l'histoire authentique de Noël. Et il faut être clair, en parlant de la venue de Jésus dans le monde, les auteurs bibliques ne nous racontent pas justement un conte. Ils ne nous racontent pas une légende, ils nous racontent un événement historique. Et c'est ce qu'on C'est ce que Jean ne cesse de proclamer dans ces quelques lignes. En devenant homme, Jésus a manifesté la présence du Dieu éternel dans l'histoire humaine. Le Créateur invisible s'est rendu visible. Et Jean a été témoin de cela, c'est ce qu'il ne cesse de marteler dans ce texte, et il le raconte avec un émerveillement qu'on ressent. Ce qui était dès le commencement, verset 1, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, verset 2, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Jésus n'est pas un personnage de légende. Jean l'a vu, ses mains l'ont touché, il l'a entendu, et même s'il ne le précise pas ici, en lisant son évangile, on prend conscience du fait que Jean a côtoyé Jésus de très près, a appris à ses côtés, fut même son ami proche. Et lorsque Jean parle ici à la première personne du pluriel, « nous », il s'associe à tous les autres témoins de Jésus-Christ. Il serait possible, bien sûr, de croire qu'un homme a inventé de toutes pièces ou bien en prenant une vague base historique et monté toute une histoire sur Jésus avec, en saupoudrant le tout de miracles ici et là, en prétendant qu'il est le Fils de Dieu, en rajoutant des événements surnaturels qui n'ont jamais eu lieu. On pourrait tout à fait penser cela. C'est quand même plus difficile de soutenir que toute cette première génération chrétienne, Pierre, Jean, Matthieu, Jacques, Paul, Luc et les autres, que tous ensemble, ils aient décidé d'un commun accord de raconter une histoire inventée à propos de Jésus. Et à supposer même qu'un tel complot, qu'une conspiration telle ait eu lieu, il est quand même difficile de comprendre dans ce cas pourquoi ces hommes, ces femmes, auraient accepté de grandes souffrances, la perte de leurs biens, l'exil, la prison, les coups. Il suffit de lire le Nouveau Testament, le livre des Actes, les Épîtres pour s'en rendre compte. En général, la mort en martyr, au bout du compte, il est difficile de comprendre pourquoi ils auraient accepté cela pour une histoire qu'ils auraient inventée de toutes pièces et donc dont ils sauraient pertinemment qu'elle est inventée. Et en fait, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on constate que les récits du Nouveau Testament sont constamment ancrés dans l'histoire. La foi chrétienne n'est pas simplement un message intemporel, désincarné. Ce n'est pas une foi purement conceptuelle. Ce n'est pas un message qui échappe à notre réalité. C'est un message ancré dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que ce caractère historique de la venue de Jésus implique pour nous? Alors, on peut parler de l'assurance que nous pouvons avoir et qui nourrit notre foi. Et d'ailleurs, on pourra, pour ceux qui seront là encore pour le 20 minutes tout à l'heure, à 20h, on aura l'occasion d'aborder brièvement la fiabilité de la Bible. Mais je voudrais mentionner une autre application qu'on pourrait tirer de ce caractère historique du message que Jean proclame ici. Dans la vie avec Dieu, il y a des jours où on ressent l'amour de Dieu avec force, où on n'a qu'une envie, c'est de chanter ses louanges, de prier, de témoigner de lui. Je ne sais pas à quel point ces jours sont fréquents, mais il y en a. Et heureusement, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais il y a d'autres jours où c'est plus laborieux. Et tous ceux et celles ici qui sont chrétiens peuvent, je pense, en témoigner. Où on ressent beaucoup moins de choses, voire peut-être pas du tout. Où c'est plus difficile de parler de notre foi, où c'est plus difficile de prier. Et ces jours-là, on pourrait être tenté de recréer artificiellement les sentiments qu'on a pu ressentir à d'autres moments. Allez, un bon coup de louange et puis on va être à fond à nouveau. Ou bien je vais lire la moitié du Nouveau Testament et je vais essayer de faire revivre cette foi en moi. Je pense, c'est très bien de vivre des moments de louange et de lire la Bible, mais je pense que d'essayer de recréer comme ça, par nos efforts, ces sentiments, c'est faire fausse route. Et je crois que ces jours-là, où on a plus de mal, où notre foi est plus laborieuse, c'est précisément le caractère historique de la personne et de l'œuvre de Jésus qui peut nous permettre d'avancer, de tenir bon. Ce témoignage sur la base de témoins oculaires, c'est cela qui doit être notre ancrage. Parce que notre ressenti du jour ne change rien au fait que Jésus-Christ s'est manifesté dans l'histoire, qu'il est né véritablement, Dieu fait homme. Ça ne change rien au fait qu'il est véritablement sur la croix et qu'il est véritablement ressuscité pour nous. Dieu n'est pas un Dieu qui ne se laisserait trouver que dans des expériences spirituelles intenses. Il est un Dieu qui vient nous chercher, qui vient nous trouver dans la banalité de notre vie quotidienne. C'est ça aussi l'incarnation. C'est ça aussi Dieu fait homme, Dieu venu dans notre histoire. Et voilà une première raison de joie complète que j'en relève. La deuxième raison, c'est que ce message est un message de vie. Dans son évangile, Jean avait déjà eu ces paroles saisissantes à propos de Jésus. « En lui était la vie », chapitre 1, verset 4 de l'évangile. Ici, Jean identifie directement Jésus à la vie. « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Et on note qu'il ne dit pas simplement que Jésus apporte la vie, mais qu'il est la vie, comme Jésus lui-même d'ailleurs l'affirme. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, verset 6. Pour bien comprendre ce que Jésus veut dire dans cette parole si forte, et donc ce que Jean veut dire aussi, il faut avoir à l'esprit le grand récit biblique de la condition humaine par rapport à Dieu. La Bible nous parle d'un Dieu créateur et éternel, en qui il y a une vie impérissable et infinie. Autrement dit, Dieu est la source même de la vie. Et au début de la Bible, dans le livre de la Genèse notamment, on voit que Dieu a créé l'homme pour la vie. Une vie qui, normalement, aurait dû être constamment renouvelée. La mort n'a pas sa place. Mais l'homme a préféré se détourner de Dieu. Il a préféré chercher à vivre par ses propres moyens, par ses propres ressources. Or, en s'éloignant de la source de la vie, tout naturellement, si j'ose dire, l'homme a trouvé la mort. Pour reprendre une image que j'ai pu déjà donner ici et là, toute banale, mais c'est un peu comme un ordinateur qu'on débranche de du secteur, de la source de courant, qui a une certaine autonomie, qui va pouvoir, si c'est un ordinateur assez récent, il va pouvoir tenir un certain moment, mais au bout d'un moment, il va finir par s'éteindre, parce qu'il n'est plus en contact avec la source permanente de courant électrique. Eh bien, l'homme en rupture avec Dieu est confronté à l'épuisement de ses ressources corporelles et ça aboutit à la mort physique. Symboliquement, le récit de la Genèse nous dit que le chemin de l'arbre de vie est bloqué pour l'homme. Il ne peut plus, sa vie ne peut plus être, n'est plus constamment renouvelée par Dieu. Mais pire encore, l'homme est confronté à la mort spirituelle, à l'absence de relation avec Dieu. Alors qu'est-ce que Jean nous dit quand il affirme que Jésus est la vie ? Je crois que ce texte nous aide à le comprendre, versets 2 et 3 notamment. « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Cette vie dont nous sommes privés, dont nous nous sommes privés, tous à notre manière, nous avons perpétué cette rupture avec Dieu. Cette vie dont nous nous sommes privés, cette vie qui vient d'une relation avec le Créateur, le Dieu de vie, et qui par conséquent s'inscrit dans l'éternité, parce que Dieu fait toutes choses dans l'éternité, eh bien cette vie, elle nous est offerte à nouveau par Jésus-Christ. Et plus encore, la vie éternelle est en Jésus, il est la vie, il incarne la vie. Quand le Fils éternel de Dieu est entré dans notre histoire, il est venu faire jaillir à nouveau cette puissance de vie qui est en Dieu. Il est venu apporter la vie là où la mort régnait. Et déjà des siècles auparavant, le prophète Ésaïe l'annonçait. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, Ésaïe 9, verset 1, a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. L'image de la lumière et des ténèbres est ici utilisée pour parler. Il est question de l'ombre de la mort. Et on voit que Dieu ramène la vie là où la mort a régné. C'est un texte d'ailleurs qu'on cite très souvent à Noël. Quand on y réfléchit, l'être humain aspire à l'éternité. Et tous, je crois, nous aspirons à l'éternité d'une manière ou d'une autre. Croyant ou non, les hommes cherchent à laisser un héritage, à avoir le fruit de leurs œuvres, à laisser leur empreinte. Et puis on veut faire quelque chose de notre vie. On espère avoir peut-être 7, 8 décennies devant nous, enfin peut-être plus à ce stade, mais on espère en tout cas avoir cette vie devant nous et on veut faire quelque chose de notre vie. Et c'est intéressant de réfléchir au fait que dans les moments où la vie ressemble le plus à ce qui est finalement notre profonde aspiration, ou nos plus profondes aspirations, autrement dit, lorsqu'on fait l'expérience de la paix, de l'amour, lorsqu'on fait l'expérience de la joie, lorsqu'on a le sentiment que nos besoins, nos aspirations sont comblés, eh bien, on n'a surtout pas envie que la vie se termine. Et comme l'a chanté à peu près un chanteur de pop rock sur deux, dans ces moments-là, on aimerait que ça dure pour toujours, on aimerait que cet instant dure pour l'éternité. Et je crois que ça reflète ce désir d'éternité qui est en l'homme, et à propos duquel l'auteur du livre de l'Ecclésiaste a cette parole: Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Et la vie de ce monde déchu n'est qu'une ombre de cette vie à laquelle nous aspirons tous, d'une manière ou d'une autre, la vie pour laquelle, en fait, Dieu nous a créés. Et ce que Jean nous dit ici, c'est que cette vie, c'est en Jésus qu'on la trouve. Et si nous saisissons la vie en Jésus-Christ, c'est comme si Dieu plantait l'éternité en nous. Et un jour, cette vie qui a déjà germé en nous, un jour, au jour de la résurrection dont parle la Bible, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, eh bien, cette vie balayera définitivement la mort. Et l'apôtre Paul décrit cette promesse biblique dans ces termes: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Première lettre aux Corinthiens 15, 54 et 57. Voilà donc une deuxième raison pour laquelle le message de Jésus donne lieu à une joie complète. Il est porteur, ce message, d'une promesse magnifique pour chacun d'entre nous, la promesse d'une vie avec Dieu qui ne s'arrêtera jamais. Et pour nous, je crois qu'il y a ici le rappel de quelque chose qui est tout simple dans un sens, mais qu'on oublie si facilement. Si c'est bien Jésus qui nous donne la vie véritable, si la vie véritable est bien en lui, alors il n'est pas concevable qu'on puisse, il ne devrait en tout cas pas être concevable, qu'on puisse faire nos projets de vie en dehors de lui. Si c'est de lui que nous recevons la vie, comment imaginer qu'on puisse continuer à... qu'on dise, ok, ça c'est réglé, affaire classée, j'ai Jésus dans ma vie, et maintenant je vais continuer à la gérer comme je l'entends, à ma manière. La vie véritable, elle est là. Elle est en Jésus. Elle est dans notre relation avec lui. Elle est dans notre vie de prière, elle est dans notre soumission à sa volonté, elle est dans notre amour pour lui en réponse à son amour pour nous. Et le reste suivra par la grâce de Dieu. Bien entendu, c'est important de mener une vie responsable, d'avoir des projets personnels, professionnels. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais ces aspects de notre vie, pour nous chrétiens, sont appelés à devenir des moyens de rencontrer Dieu, des moyens de mieux le connaître, des moyens de témoigner de lui. La vie, elle est en Jésus. Nos projets de vie sont des projets de vie avec Jésus. Et donc la vie avec Jésus, ce n'est pas une portion de vie qui couvre la partie spirituelle de notre vie ou qui couvrerait nos besoins spirituels, mais c'est bien une redéfinition de notre vie entière. Et j'en viens au troisième et dernier sujet de joie pour ce texte, un message d'unité. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des drames qui ont eu lieu aux États-Unis, plusieurs successivement, suite à des incidents meurtriers impliquant la police. Notamment, l'affaire Christopher Brown à Ferguson a fait beaucoup de bruit. Et il y a eu évidemment beaucoup de réactions un peu dans tous les sens. Une réaction particulièrement intéressante a fait un peu le tour des réseaux sociaux et même des médias. Celle d'un joueur de football américain, certain Benjamin Watson, qui a exprimé avec beaucoup de sagesse, je trouve, les différentes émotions qu'il traversait vis-à-vis de cette affaire. À la fois, le sentiment de justice qu'il reconnaît ressentir en tant qu'Afro-Américain face à l'accumulation de ces drames où on a le sentiment que, finalement, c'est toujours des hommes noirs non armés qui sont tués par des policiers blancs armés. L'injustice qu'il ressent par rapport à cela. Et en même temps, il reconnaît le risque de faire preuve du même type de préjugé en partant du principe que, alors que finalement il n'était pas témoin de la scène, en partant du principe que le policier blanc avait forcément mal agi parce qu'il est blanc et que forcément donc il a fait preuve de racisme forcément, il a agi avec de mauvaises intentions. Mais à la fin de son texte, Watson révèle ses convictions profondes. De manière ultime, dit-il, ce n'est pas un problème de peau, mais un problème de péché. Une assonance en anglais qui ne passe pas à la traduction. C'est le péché qui fait que nous nous rebellons contre l'autorité. Et c'est le péché qui fait qu'on abuse de son autorité. C'est le péché qui fait qu'on est raciste. C'est le péché aussi qui fait qu'on pille et qu'on brûle. Mais ce qui m'encourage, c'est que Dieu a pourvu une solution au péché par son Fils Jésus. Et avec cette solution, un cœur et un esprit transformés. Un cœur capable de regarder au-delà de ce qui est extérieur et de voir ce qui est vraiment important en chaque être humain. Le remède au scandale, Michael Brown, Trayvon Martin, Tamir Rice, Eric Garner, c'est l'évangile. Dans notre texte au verset 3, Jean associe le message qu'il proclame, l'évangile, à une double promesse. La communion avec le Père et avec le Fils, Dieu lui-même, mais aussi la communion les uns avec les autres. La communion avec tous ceux et celles qui ont été transformés par la même espérance en Jésus-Christ. L'évangile transforme notre relation avec Dieu, mais il transforme aussi nos relations les uns avec les autres, nos relations humaines. Le prophète Ésaïe, en parlant à l'avance du Messie, le désignait comme prince de paix. Et lorsque Jésus est né, les anges annoncent aux bergers paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. On cite souvent ces paroles à Noël, mais on ne sait pas toujours pourquoi. C'est peut-être pas toujours très clair pour nous en quel sens Jésus est venu apporter la paix, alors que quand on regarde les infos, on voit encore beaucoup de violence. Il me semble que Jésus, en attendant ce jour où toute violence aura disparu dans le monde nouveau que la Bible annonce, mais il me semble que Jésus est venu apporter la paix dans le sens où il est venu combler l'homme de ce dont il a besoin. Par-dessus tout, une relation restaurée avec son Créateur. Lorsque les hommes se savent comblés par leur Créateur et que donc ils cessent d'essayer de réussir leur vie par leur propre force et lorsqu'ils cessent de lutter pour se faire une place dans le monde parce qu'ils savent qu'ils ont trouvé pleinement leur place auprès de Dieu, eh bien il me semble que dans ces cas-là, ils n'ont plus aucune raison de se battre. N'ont plus aucune raison de se diviser. Imaginez deux hommes qui se battent pour un petit lopin de terre de 20 mètres carrés et à qui on vient dire « Mais pourquoi vous vous battez? Regardez derrière vous, vous avez là une vallée immense, vous avez un pays entier qui est pour vous. Vous pouvez aller vous y installer, c'est à vous, allez où vous voulez, il y a largement de la place pour tous. » Il serait absurde et tragique que les deux hommes continuent à se battre pour ce petit lopin de terre de 20 mètres carrés. Et c'est ce qui se passe quand, et trop souvent, les chrétiens continuent à se diviser et à se battre, alors que la grâce de Dieu, dans sa plénitude, leur est offerte en Jésus-Christ. En fait, plus nous nous laissons combler par Dieu, moins nous aurons envie de nous diviser, et plus nous aurons envie de nous réjouir avec d'autres de la grâce de Dieu. Au lieu de se disputer pour des ressources limitées et décevantes, on peut recevoir l'ensemble des ressources. On peut goûter ensemble aux ressources illimitées de Dieu. Et en ce sens, donc, l'Évangile réconcilie l'homme avec Dieu, mais il a la puissance de réconcilier les hommes entre eux. Et l'apôtre Paul, je crois, dans ce sens-là, écrit dans sa lettre aux Éphésiens, dans le contexte où il parle des chrétiens d'origine juive et d'origine païenne, « Car c'est lui, Jésus, qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Je ne sais pas dans quel esprit nous venons habituellement à l'Église. J'espère que l'esprit avec un grand E, le Saint-Esprit, nous anime. Je sais qu'il est facile, cependant, de laisser les divisions et les rivalités de ce monde s'installer entre nous. Ou bien on peut avoir tendance à se protéger en évitant de vraies relations, en se contentant d'être sympa et cordial avec tout le monde, tout en protégeant jalousement l'image qu'on projette de soi, ou en jouant un rôle qui ne correspond peut-être pas vraiment à qui nous sommes, mais par lequel on essaye de donner une bonne image de nous-mêmes. Et Dieu nous invite entre frères et sœurs en Christ, et il invite tous ceux et celles qui j'espère le deviendront bientôt, à nous libérer de ces obstacles à la vraie communion. Jésus est entré dans notre histoire et il veut balayer toutes nos petites histoires, nos prétentions, nos rivalités, nos craintes de ne pas être à la hauteur. Et en cette période de Noël, je crois que Dieu nous lance le défi de ne pas se contenter de bien nous entendre, mais de vivre réellement en communion les uns avec les autres. Peut-être que certains pourront ouvrir leur foyer à ceux qui restent seuls pendant les fêtes. Je sais que pour le public du dimanche soir, souvent, entre des petits logements où on part dans sa famille, ce n'est pas forcément simple, mais peut-être que certains le pourront. Peut-être aussi que nous pourrions tous penser à au moins une ou deux personnes pour qui nous pourrions particulièrement prier pendant cette période de Noël. Peut-être aussi que dans nos échanges informels, tout à l'heure, nous pourrions aller un peu plus loin pour savoir comment les autres vont vraiment, comment on peut les soutenir dans la prière, comment on peut les encourager, tout en étant prêts aussi à nous ouvrir nous-mêmes. À nous de donner envie à ceux qui nous entourent et qui n'ont pas encore fait la rencontre de Jésus-Christ. Il y en a sans doute parmi nous ce soir, et j'espère qu'en vivant cette communion entre nous, nous pourrons leur donner envie de laisser Jésus entrer dans leur histoire. Je vous invite à la prière. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils Jésus dans notre monde, dans notre réalité humaine, d'être venu jusqu'à nous, sachant que nous ne pouvions pas venir jusqu'à toi à cause de notre péché qui nous séparait de toi. Combien cette réalité est dure à entendre, combien l'esprit de notre monde va à l'encontre de cela. Et pourtant, Père, en cette période de Noël, tu nous rappelles que tu as toi consenti à cette extrême humilité en Jésus-Christ de venir nous chercher, de nous ramener à toi. Je te prie que nous puissions nous ouvrir à nouveau à ce message de grâce et nous laisser transformer par lui. Je te prie pour ceux et celles parmi nous ce soir qui ne te connaissent pas encore, je te prie pour que toi, le Dieu venu dans notre réalité, tu puisses ouvrir leurs yeux, nourrir leur esprit de cette foi pour qu'ils puissent t'accueillir ou peut-être te retrouver après une longue période où ils ont pensé pouvoir te mettre entre parenthèses. Je te prie pour tous ceux et celles qui pourraient se retrouver dans ces paroles, tu puisses leur donner ce soir de se voir pleinement accueillis par toi et de t'accueillir par la foi. Au nom de Jésus. Amen.